Donc, je vous invite à prendre 1 Chronique 19, verset 13.
Le chapitre 19.
J'écrirai peut-être plus gros. Parce que, peut-être pour ceux qui ne voient pas très bien. Quoi. Et donc, en fait, c'est un passage que j'ai lu il y a assez longtemps. Et en le lisant, en parcourant, je me suis particulièrement arrêté au verset 13 qu'on lira. Et je m'arrêterai à ce dernier verset dans la lecture. Et ça m'a vraiment frappé des circonstances de cet événement. Donc, je vais le lire. Donc, 1 Chronique 19. Et il arriva, après cela, que Nakash, roi des fils d'Amon, mourut, et son fils régna à sa place. Et David dit, « J'userai de bonté envers Hanoun, fils de Nakash, car son père a usé de bonté envers moi. » Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Et les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, vers Hanoun, pour le consoler. Et les chefs des fils d'Amon dirent à Hanoun, « Est-ce à tes yeux pour honorer ton père que David t'a envoyé des consolateurs ? N'est-ce pas pour reconnaître et détruire et explorer le pays que ses serviteurs sont venus vers toi ?» Et Hanoun prit les serviteurs de David et les fit raser et fit couper leurs vêtements par le milieu jusqu'au bas des reins. Et les renvoya. Et on alla et on informa David au sujet de ces hommes et il envoya à leur rencontre, car les hommes étaient très confus. Et le roi dit, « Habitez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé, alors vous reviendrez. » Et les fils d'Amon virent qu'ils s'étaient mis en mauvaise odeur auprès de David. Et Hanoun et les fils d'Amon envoyèrent 1000 talents d'argent pour prendre à leur solde de la Mésopotamie et de la Syrie de Maaca et de Tsoba, des chars et des cavaliers. Et ils prirent à leur solde 32 000 hommes de chars et le roi et Maaca avec son peuple. Et ils vinrent et campèrent devant Médéba. Et les fils d'Amon s'assemblèrent de leur ville et vinrent pour combattre. Et David la prit, et il envoya Joab et toute l'armée, les hommes forts. Et les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville, et les rois qui étaient venus étaient à part dans la campagne. Et Joab vit que le front de la bataille était contre lui, de devant et derrière. Il choisit des hommes de toute l'élite d'Israël et les rangea contre les Syriens. Et le reste du peuple, il le plaça sous la main d'Abishaï, son frère. Et ils se rangèrent contre les fils d'Amon. Et il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu me seras en aide. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, je t'aiderai. Sois fort et fortifions-nous à cause de notre peuple et à cause des villes de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qui est bon à ses yeux. » Je m'arrêterai là. Après, on a la suite, on a la description de la bataille, la victoire que remporte le peuple d'Israël. Etc. Et donc je vais juste expliquer avec mes mots, si on veut, un peu l'histoire, parce que la Derby est un petit peu, hein, les fils d'Amon, etc. Donc on a la mort d'un roi étranger aux frontières d'Israël, donc c'est le premier nom qu'on a pu évoquer, Nakash, pardon. Et David, roi, voilà, il va envoyer des ambassadeurs pour montrer ses condoléances au fils qui a perdu son père. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais les conseillers de Hanoun voient d'un très mauvais œil ces ambassadeurs qui viennent d'autre part, du pays d'Israël, et ils sont très suspicieux. Et Hanoun succombe un peu à cette suspicion, on ne sait pas trop pourquoi, et il les humilie, hein, il leur enlève le pantalon et rase la barbe, en gros, c'est ça. Et il les renvoie en Israël. David dit simplement, bon, restez à Jéricho, rentrez pas dans la ville sainte, parce que vous êtes déshonorés, restez là-bas. Bon, il fait rien de plus. Et là, on a Hanoun qui se dit, ah mince, j'ai complètement capoté, j'ai fait n'importe quoi, je vais sortir des sous pour lever une armée. C'est même pas pour s'excuser, c'est assez étrange comme comportement de sa part, mais il va voir chez les alliés, ou plutôt il va engager des mercenaires pour lever une armée, pour aller contre David, devant la ville de David. David, il voit ça, on m'attaque, donc à son tour, David, il réagit, il dit, bon, bah, je vais me défendre quand même, je vais pas laisser le peuple se faire attaquer. Et donc il demande à Joab, son général, et il demande à Abishaï, son frère aussi général, de mener bataille. Et donc c'est dans ce contexte guerrier que sont prononcées les paroles de Joab, après la stratégie qui est développée. Sois fort, en parlant à Abishai, et fortifions-nous, en parlant à tout le peuple, finalement, à tous les soldats, etc. Et donc, je vais vous exposer plusieurs idées que j'ai eues à propos de ce passage, après leur contextualisation et la reformulation de ce que j'ai dit. Donc les idées. La première, c'est, je dirais, on va juste regarder. Ça se fait comment ?
Ça frotte ?
On va regarder dans un premier temps les personnages, chacun d'entre eux, voir leur comportement vis-à-vis de la situation, analyser un peu leurs décisions pour nous éclairer sur c'est notre quotidien, finalement, dans quelles circonstances on se trouve, quels sont les choix, qui sont judicieux, etc. Merci, Christelle. Dans un deuxième temps, on va analyser, en fait... Merci beaucoup. On va analyser ce verset, que je vais décomposer, en fait, mot par mot, très simplement. Donc, le premier, qui va être le « sois fort », de Joab envers Abishai, qui peut être traduit aussi par bon courage dans la seconde, etc. Une autre idée, c'est, on continue le verset, c'est fortifions-nous à cause de notre peuple. L'autre idée, c'est à cause des villes de notre Dieu. On va essayer de transposer un peu ces notions qui sont ici dans un contexte guerrier, de bataille, qui sont là pour la fierté des soldats. On va essayer de se les approprier, de comprendre un peu mieux pour nous aujourd'hui qu'est-ce que ça peut signifier. Et en dernier, bien sûr, que l'Éternel fasse ce qui est bon à ses yeux. Bon, je ne vais pas tout écrire parce que j'ai la flemme. Voilà. Et donc. Petit préambule avant tout ça, je vous parle de courage. Donc c'est un sujet un peu délicat parce que je ne vis pas vos vies et c'est facile d'en parler, mais c'est difficile d'en vivre. Donc excusez-moi en préambule de ce sujet, mais voilà, concentrez-vous sur le message qui est apporté et pas sur la personne qui l'apporte. Voilà. C'est un peu un disclaimer de ma part. Voilà. Donc, on va regarder les personnages. Le premier, sur lequel j'ai envie qu'on se concentre, c'est David. David, il est assez distant dans sa manière de faire. Il interagit finalement deux fois. Et on peut un petit peu analyser son comportement. Il est, on l'a vu au début, il envoie des ambassadeurs parce qu'il a compassion vis-à-vis du fils qui a perdu un père. Et donc, il est vraiment compatissant, sincère, finalement, dans son comportement. Ensuite, quand il reçoit les ambassadeurs qui ont été déshonorés, il respecte, il est assez juste dans son choix, il dit « Non, mais vous êtes déshonorés, rentrez pas dans un lieu qui est un peu sanctifié, quoi, la ville de Jérusalem, la ville de Dieu. Donc, restez là-bas. » Il ne va pas les punir, parce qu'ils ont fauté, c'est pas vraiment de leur faute. Donc, il va pas aller plus loin dans la mission qui leur a été confiée, etc. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. David, voilà, leur dit juste, bon, restez dans un coin, on verra plus tard. Mais finalement, David, il a un comportement assez juste envers les individus. Et encore plus juste, je dirais, quand c'est Hanoun qui lève une armée et qui va mettre une armée devant la ville de David. David, il n'est pas belliciste. C'est pas lui qui dit « Ah, Hanoun, il a déshonoré mes ambassadeurs, il a mal pris mon jugement, je vais l'attaquer. » Non, c'est Hanoun qui a mal compris tout ça Et David, il est juste en défenseur, en position défenseur vis-à-vis d'une attaque. Et en fait, on pourrait dire que David a cette position de juste, enfin, en tout cas de justice humaine, de ce point de vue, il agit correctement face à quelque chose qui lui vient. En tout cas, on a cette sensation-là de David, et voilà, il est assez robuste dans ses jugements. De l'autre côté, on a Hanoun qui défaille un peu. On n'a pas ses états d'âme dans le texte, mais on peut les supposer. Il vient de perdre un père. Je ne connais pas sa relation avec son père, mais bon, il est dans le deuil, du moins. Et on a l'impression qu'il succombe un petit peu à la peur et au chagrin. C'est finalement ses conseillers qui le conseillent très mal en disant que les ambassadeurs de David, c'est des espions. Et il succombe finalement à cette paranoïa de voir du mauvais un peu partout. On a peut-être cette détresse, cette tristesse qui se transforme en colère et qui se concentre vers un ennemi qui est là. Donc voilà, on a certainement un personnage ici qui n'est pas très lucide sur ses décisions, qui se laisse influencer de la mauvaise manière par ses conseillers qui le font douter sur les intentions de David, et il va commettre une grosse erreur. Bon, il n'y a pas mort d'homme, juste deux personnes qui sont déshonorées, certes. Mais en fait, il s'embourbe dans son erreur et il va succomber, il va envisager très mal la suite. Il va interpréter les intentions du peuple d'Israël d'une très mauvaise manière. Il croit, il l'est dit, hein, verset 6, et les fils d'Amon virent qu'ils s'étaient mis en mauvaise odeur auprès de David. Donc ils comprennent qu'ils ont mal fait, et au lieu de s'excuser, ce qui pourrait être assez lucide, voilà, on apaise un peu les tensions. Non, il sort les caisses du trésor et ils vont engager des mercenaires. Donc là, on a un comportement qui est complètement agressif de la part d'Hanoun et de ses conseillers. Au lieu de faire acte de diplomatie et d'apaiser les tensions, on a Hanoun qui défaille complètement. Il fait erreur sur erreur dans son comportement. Certainement que ce chagrin qu'il porte en lui, voilà, il s'exprime d'une très mauvaise manière ici. Il y a une escalade en fait de la violence de son point de vue qui est très rapide. Hein. Bon, un autre personnage, Joab. Joab, c'est le général. C'est le général de David. Il est là un peu dans toutes les batailles. C'est aussi un neveu de David. Il restera très fidèle envers David. Tout au long, depuis le début, en fait, quand David était exilé au temps de Saül et même après. Et il est général parce qu'il a des capacités de meneur d'hommes, etc. Et il a de très nombreux frais d'armes. C'est aussi un grand stratège. Hein. À nombreuses reprises, on a cette description, même ici, de la stratégie que Joab apporte pour essayer de remporter victoire sur les ennemis. Cependant, il a un goût assez prononcé pour la violence. Et il a un grand zèle pour David, ce qui l'amènera à tuer, en fait, et à désobéir aux ordres de David, en tuant, par exemple, Absalom, le fils rebelle de David. Donc il est quand même un peu... Enfin, c'est un soldat, donc voilà, il a ce goût prononcé pour la violence. Mais c'est quelqu'un de très expérimenté, qui connaît son métier, si on peut dire. Et voilà, il sait ce qu'il faut faire, etc. Ensuite, on a Abishai, le second général, un frère de Joab. Et Abishai aussi, c'est un grand soldat, il a beaucoup de faits d'armes, il a un peu moins de responsabilités que Joab. Bon, j'ai pas su déterminer si Abishai était l'aîné ou si c'était Joab l'aîné. Dans les généalogies, des fois c'est Abishai qui est en premier, des fois c'est Joab, on sait pas trop. Mais voilà. Et c'est aussi un grand compagnon de David. C'est lui qui l'accompagne. C'est Abishai qui accompagne David pour aller au camp de Saül, pour espionner les intentions de Saül. Ils ont même l'occasion d'assassiner Saül à ce moment-là. Et David, il dit non, Abishai, c'est pas à nous de faire ça. C'est pas aux hommes, c'est à Dieu de prendre cette décision. Donc là aussi, Abishai, c'est un homme de violence qui a un grand zèle pour David et voilà, qui a ce goût pour la violence et pour le sang. Donc deux personnages idéaux pour faire la guerre, finalement. Voilà. Et aussi, on a un dernier personnage qui est assez discret, qui n'est évoqué qu'une fois, qui n'agit pas, c'est Dieu. Dieu qui est prononcé dans le verset 13, qui est le dernier verset que j'ai lu. Et en fait, c'est sur ce verset où je me suis dit, ah, ça ressemble à notre quotidien quand même. Parce que on a Dieu, on sait qu'il est là, mais on n'a pas de preuve de sa présence. On agit, il se passe des choses dans notre quotidien, mais on n'a pas Dieu en tête, toujours présent, etc. Finalement, c'est cette situation où il y a un événement un peu compliqué, où il y a une épreuve, il n'y a pas de part active de Dieu, on ne le sent pas, personne ne consulte Dieu aussi. C'est finalement cette situation qui m'a fait penser à notre quotidien de tous les jours, où on n'a pas forcément de réflexe de dire « Ah, Dieu, sois présent, aide-moi, montre-moi, etc. » Aussi, en contraste, dans cette bataille, il y a d'autres batailles aussi dans Chronique, où c'est plutôt, par exemple, David va demander conseil à Dieu, ou un prophète intervient pour dire faites ceci, faites cela. Donc des fois, Dieu agit activement par la parole d'un prophète, par une demande de quelqu'un, ou même dans la bataille, il agit activement dans ces événements. Et là, c'était un peu cette bulle, moi, que je trouvais, où Dieu n'est pas présent activement dans ces passages. Voilà. Donc c'est ça qui me faisait penser à tout ça. Et donc on va continuer, on va analyser ce verset 13 que je vais relire. Donc « Sois fort et fortifions-nous à cause de notre peuple, à cause des villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui est bon à ses yeux. » On va examiner, décortiquer, adapter cet encouragement de Joab. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Joab n'oublie pas son Dieu dans des circonstances comme ça. Et ça, c'est déjà peut-être une première leçon pour nous. C'est que, voilà, on sait que Dieu est toujours présent, en théorie, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est à nous aussi de l'interpeller et d'y penser d'une certaine manière. Donc on n'oublie pas le contexte guerrier dans lequel est prononcée cette phrase. Et ce « sois fort », il est, donc la deuxième personne du singulier, donc il est prononcé envers Abishai, le frère de Joab. Et c'est un peu étrange. Bah, pourquoi ? Parce que ces deux guerriers expérimentés, ils ont l'habitude de la guerre, de la bataille, et pourtant, il leur faut quand même du courage. Il leur est souhaité du courage. Donc, ils ont toujours cette peur de... Bah, on va le dire, de la mort ou de perdre un frère d'armes, bien entendu. Et l'expérience n'empêche pas la peur. Et on peut adapter ça un peu aujourd'hui, de manière un peu plus simple. Par exemple, un ou une artiste qui se présente sur scène, eh ben, a toujours le trac. Et le trac, c'est ce stress mêlé à la peur, et on lui souhaite toujours bon courage quand il va sur scène. Donc, même si c'est la 100 000e fois qu'il va sur scène, toujours cette appréhension. Bah là, c'est un peu la même chose. On a quelqu'un d'expérimenté qui sait ce qu'il fait, qui l'a fait plein de fois, mais pour autant, il faut du courage pour faire l'action dont qu'il a envie de faire. Cet événement qui peut être compliqué, voilà, il faut du courage. Donc Joab encourage son frère parce qu'il a une position peut-être un peu plus élevée, soit c'est l'aîné, soit... Bah, après, c'est le général. Et aussi, il ne faut pas, je pense, se tromper sur la notion de courage. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est surtout pas ça. C'est même dangereux de ne pas avoir peur, parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui peut être mortel ou dangereux pour notre situation. Être téméraire, c'est pas si bien. Mais être, et le courage, c'est surmonter cette peur avec le cœur, d'une certaine manière. Je crois que les deux mots sont reliés de racine. Et donc, il faut voir ça. Donc le courage, c'est surmonter cette peur. Et bien sûr, une parole qui est prononcée par quelqu'un qui nous est cher, là ici c'est un frère pour Abishai, et ben ça fait du bien. Il ne faut pas négliger cet impact sur la personne à encourager de simplement quelques mots. On ne comprend pas forcément la situation, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de la personne. Mais juste la présence et un mot, courage, ben ça peut changer l'état d'esprit de quelqu'un qui vit une situation un peu compliquée. Et ça peut dire ah ouais c'est vrai, je suis entouré, etc. Donc il faut pas hésiter, hein, c'est ce genre de phrase, d'expression qu'il faut pas hésiter à prononcer, des je t'aime aux personnes qu'on aime, des courage aux personnes qu'on doit encourager. Voilà, c'est des mots, il faut pas être avare de ce genre de mots. Voilà. Aussi, cette parole sois fort, qui est traduite aussi par bon courage, c'est pas pour flatter l'ego d'Abishai. Je pense pas. Ce serait pas très pertinent de le voir comme ça. Parce qu'effectivement, Abishai est certainement fort. Mais il ne s'agit pas de gonfler encore son orgueil dans ce soi fort. Non, non, je pense que vraiment, ils connaissent la situation dans laquelle ils sont. La bataille, c'est un moment toujours d'appréhension, c'est sûr. Et donc, il dit bon courage. Donc il ne faut pas prendre ce bon courage pour ce soi fort plutôt comme une parole qui enfle l'orgueil. Hein. Il faut le voir comme une parole compatissante. Je connais les circonstances dans lesquelles tu vas passer. Et ben voilà, je suis avec toi. Courage. Voilà. C'est comme ça, je pense, qu'il faut l'entendre. Donc on va passer au notre peuple. Au fortifions-nous à cause de notre peuple. Dans la seconde, c'est « Montrons du courage pour notre peuple ». Donc on a deux versions, on comprend l'idée, mais qui sont un peu différentes. Donc on a le « à cause de notre peuple », qui est ce « on va, notre peuple nous donne du courage ». Donc c'est la cause de notre courage, c'est notre peuple. Et dans la seconde, « Montrons du courage pour notre peuple », c'est cette idée de c'est pour défendre mon peuple. Donc la finalité, c'est mon peuple. Donc on a, je sais pas si vous me comprenez, dans la version d'Arby, on a cette idée où c'est le courage provient de cette appartenance à quelque chose, et donc c'est quelque chose qui produit le courage. Et dans l'autre, c'est parce que le but est devant nous que on va avoir du courage. Et donc il y a ces deux notions ici qui sont liées, je ne connais pas le texte original, donc je ne peux pas vous donner, de trancher la question, mais je pense que les deux idées sont intéressantes. C'est à la fois on est nourri par quelque chose qui nous donne du courage, et à la fois on se donne du courage pour quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce « notre peuple » Dans le contexte du récit, bien entendu, il s'agit de défendre une nation, un peuple, voilà, par les armes, etc. Il s'agit d'enfler un peu, d'allumer, d'attiser la flamme patriotique des soldats, bien entendu. Bon, Joab veut toucher à la fierté, à ce qui fait la fierté des soldats. Hein, les mots « notre peuple », c'est le peuple d'Israël. Hein. Et on peut transposer, je pense, sans trop se tromper, ce « notre peuple » à cet autre peuple que c'est à qui Dieu. Et bien sûr, je parle de ce peuple de Dieu, que nous formons, ceux qui croient en la révélation de Jésus, autrement dit, les chrétiens. Et donc là, si on transpose un peu, si on redit avec cette interprétation les deux phrases, fortifions-nous à cause de notre appartenance à Dieu, ça nourrit notre courage, et ou parce que Dieu nous a acquis, nous a adoptés. Et aussi, on peut montrer du courage parce que Dieu, c'est la finalité. Qui a ces deux aspects. Et moi, là, tout de suite, quand je dis « fortifions-nous à cause de notre appartenance à Dieu », parce que Dieu nous a acquis, moi, ça me... Je sais pas vous, mais moi, ça me donne du courage. Quoi. C'est, ah ouais, j'ai quelque chose d'ancré sur lequel je peux m'appuyer, c'est sûr, ça tient, c'est robuste, je sais que ça voilà. Et oui, de savoir qu'on appartient individuellement à Dieu et que nous formons collectivement ce peuple de Dieu, l'Église, avec un grand E, et bien de cette manière, on voit comment on peut s'en sortir. Voilà, on a des grâce à Dieu, hein, et par l'aide des autres. On peut demander, bien entendu, au-delà de dire courage, on peut être aidé, et on peut demander de l'aide. Et cette perspective d'être à Dieu et d'être ensemble, eh ben, ça remplit notre esprit d'une lumière qui chasse ce désespoir. Et je rebondis maintenant sur cette fierté qui est touchée vis-à-vis des soldats. Eh ben, nous, il nous est pas demandé d'être fiers, parce que la fierté, c'est de l'orgueil. Hein, on va pas commencer à être orgueilleux d'être chrétien, sinon on va abaisser d'autres gens. Et c'est contre le message chrétien, bien entendu. Donc non, on n'est pas là pour être orgueilleux, bien entendu. Mais, du moins, il y a cette notion de on n'a pas à avoir honte de l'évangile. Hein, Paul nous le rappelle dans Romains 1, verset 18, « Car je n'ai pas honte de l'évangile. » Et aussi dans 2 Timothée 1, verset 8, je crois que je vais relire aussi un peu ce qu'il y a avant, parce que c'est dans notre... 2 Timothée 1, verset 8, un petit peu avant. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, verset 7, mais de puissance et d'amour et de conseil. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, etc. Donc voilà cet esprit qui est en nous, qui nous donne la puissance, qui n'est pas un esprit de crainte, qui nous donne la puissance de l'amour et du conseil. Et il ne faut pas avoir honte du témoignage de notre Seigneur. Donc voilà, nous, il nous est demandé, en tant que chrétiens, d'être remplis de cet esprit, finalement, de courage, d'amour, de conseil et de puissance, et de ne pas avoir honte de l'Évangile. Et à nouveau, voilà, c'est cette fierté, à nouveau, c'est, je le répète parce que je pense que c'est important, c'est pas du tout pour flatter notre orgueil. C'est vraiment un encouragement. C'est vraiment une parole compatissante. Et c'est comme ça, je pense, qu'il faut le prendre. Oubliez ce contexte guerrier où voilà, les hommes vont combattre, mais se l'approprier et se dire « Ah ouais, là, ça me parle. Voilà, faut que... Voilà, j'appartiens à Dieu. Ouais, voilà, ça me donne du courage. » On continue. Allez, on va passer par là. Alors j'aimerais qu'on continue, bien sûr, à suivre mes réflexions, si vous y arrivez, j'espère. Et donc de transposer ce passage à notre réalité quotidienne. Alors qu'est-ce que ça peut être, ces villes de notre Dieu pour nous? Bon, pour le soldat, c'est simple, c'est Jérusalem. Il faut défendre Jérusalem, la ville de Dieu, la ville de David. Mais nous, on n'a pas de, en tant que peuple chrétien, on n'a pas de pays chrétien. Enfin, on n'est pas. Bon, il y a le Vatican, mais ça compte pas. Mais voilà, c'est pas vraiment une nation à défendre. Hein. Donc, qu'est-ce que ça peut être, ces villes? Et j'aimerais transposer cette notion de lieu à cette notion de moment dans nos vies quotidiennes. Voilà. Suivez-moi. En fait, moi. Ces villes, ça me fait penser à des moments forts, des places fortes de Dieu, où Dieu est présent. Donc ça me fait penser à des moments privilégiés qu'on a avec Dieu. Le dimanche matin, entre autres, les moments de lecture qu'on s'accorde, les moments de partage, de discussion autour de la parole, les moments de prière, bien sûr, que nous prenons régulièrement. Et pour moi, c'est vraiment ça, ces villes de notre Dieu, c'est ces moments forts de nos vies quotidiennes qui sont dédiées à Dieu, qui sont avec Dieu. Et quand on retranspose un peu le à cause, le pour les villes de notre Dieu, bah oui, à cause, ces moments privilégiés avec Dieu nourrissent notre courage, notre foi, donc nous permettent d'avoir ce courage. Et en même temps, on a envie de surmonter l'épreuve, bah, pour ces moments, parce qu'on sait que c'est dans les épreuves que la foi se voilà, grandit et s'élève. Donc là, à nouveau, ça, enfin, je trouve que ça a du sens de transposer ces villes à ces moments privilégiés avec Dieu, qui sont la source de ce courage, et en même temps, ce pourquoi on a le courage de passer l'épreuve. Et donc, c'est ces moments privilégiés avec Dieu qui consolident notre foi, qui nous permettent de passer outre les épreuves. Et voilà, c'est en repensant à ces moments privilégiés qu'on a eu, ou ces moments forts qu'on a eu dans notre foi, qu'on peut se dire, je monte du courage, Dieu est avec moi, et je sais qu'il a été là, et qu'il le sera toujours, etc. Aussi, dans les villes de notre Dieu, dans ces moments forts, au-delà des moments, j'y vois aussi des jalons qu'on peut se placer dans notre tête, dans notre foi, en fait, auxquels on s'accroche, donc des paroles, des versets auxquels on peut se raccrocher et qu'on pense et qui nous émeut, en fait, à chaque fois qu'on les relit dans des circonstances particulières. Et voilà, je vous invite, d'une certaine manière, à connaître vos versets préférés et à les utiliser, à les user même, pour surmonter et pour vous donner du courage. Moi, par exemple, c'est 1 Timothée 4, verset 14, c'est cette parole de « Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi ». Ce don qui t'a été imposé par les mains. Au moins, on ne m'a pas imposé les mains, mais le don de grâce est là quand même. Et c'est vrai que cette idée de ne pas négliger cet impératif, et en même temps, ça invite à l'action par le don de Dieu. Enfin, voilà, moi, ça me parle beaucoup. Donc, cherchez dans votre tête, dans vos Bibles, quels sont pour vous les versets qui vous remotivent, etc. Voilà, je vous invite vraiment à les chercher, les retrouver, vous les rappeler. Et donc les villes de notre Dieu, ces moments privilégiés avec Dieu dans nos vies quotidiennes, et ces paroles, ces versets qu'on a entendus, qu'on a surlignés, qui nous fortifient, qui nous ancrent dans cette relation avec Dieu et qui galvanisent, qui nous galvanisent pour ces épreuves. Et enfin, c'est peut-être le plus dur, que l'Éternel fasse ce qui est bon à ses yeux. Et c'est vrai que ça, assumer la toute souveraineté de Dieu, c'est toujours compliqué. Parce que ça demande beaucoup d'humilité. Parce que quand on n'a pas ce qu'on veut, quand il nous arrive des choses où on est plus bas que la situation initiale après l'épreuve, et ben c'est dur. Et pourtant, oui, Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Et donc, il ne faut pas... C'est... Moi, je trouve assez fou, en fait, dans la bouche de Joab, qui est un guerrier, un général, et ben, dans ce moment, il est assez humble, finalement. Il sait qu'il peut perdre. Il sait qu'il peut perdre. Et il l'envisage même, finalement. Mais il se dit, bon, ben, c'est l'Éternel c'est Dieu qui est aux commandes, et ben, qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. Voilà. Qu'il advienne ce que l'Éternel veut. Et voilà, les épreuves, ça peut se dérouler de manière inanticipée, on peut y perdre, bien sûr. Et c'est difficile d'accepter cette toute souveraineté de Dieu vis-à-vis d'une situation lorsqu'on est pire qu'avant. Et voilà. Et peut-être l'enseignement que Joab nous donne ici, c'est il ne demande pas la victoire, il demande du courage. Je pense que c'est important, ça. Il ne demande pas la victoire, il demande du courage. Et on peut mettre en lien ce verset avec beaucoup, je pense, beaucoup d'autres versets. Mais j'avais pensé à celui-là. Je crois que... Non, c'est pas celui-là qu'on a cité. Et donc, Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme se propose sa voie, mais l'Éternel dispose ses pas. À nouveau, on a l'homme qui entreprend, mais c'est l'Éternel qui est là et qui choisit. Et on comprend mal parfois les circonstances d'un événement qui nous affecte, mais voilà, je crois que c'est Alain qui l'a dit dans une prière, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà, c'est toujours compliqué de prendre du recul sur une situation, de comprendre ce verset dans une situation qui nous affecte, et qui nous affecte pas bien. Et donc voilà, il faut, c'est compliqué, il faut... Hein, mais voilà, il faut essayer de prendre du recul, se remettre à Dieu, voilà, repenser à ce que sont ce peuple, ces villes, dans nos cœurs. Et voilà, regarder finalement ce qui est devant nous et pas sur le moment. Et on a cet exemple parfait, j'ai envie de dire, de Jésus, qui, sachant les souffrances qu'il allait subir, par obéissance à Dieu et parce qu'il voyait la joie que ça allait être d'être tous ensemble au ciel, et ben il a accepté. Et bon, c'est bien sûr un exemple extrême, mais on sait que quelqu'un l'a fait. Enfin, c'est Jésus, notre Sauveur. Et donc on peut se raccrocher à lui pour vraiment nous aider à surmonter ces épreuves. Voilà, ça nous enseigne que Dieu veut notre bien, même si les circonstances nous échappent et échappent à notre compréhension. Alors, moi, je vous invite, en repensant à tout ce que j'ai dit, aux différents points évoqués, eh ben, je vais relire ce dernier verset et je m'arrêterai là. « Sois fort et fortifions-nous à cause de notre peuple et à cause des villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui est bon à ses yeux. »